Chapitre 21. Ils montèrent tous des niveaux inférieurs, ceux qui étaient restés au temple suspendus dans les airs, après que la plupart des travaux eurent été terminés, Aîné et Abétik, Rachel et Théo, Georges et Jigmé, Koukou et Kai, Chimdin et Gyalotondup, Lomo et Lapsang, Kim Byung-Tsun et Vicky Grosselj, Kenshiro et Haruyuki, le supérieur Kempo Nga Wangtashi et son maître, le jeune Dalai Lama, Wojtek Majer et Janusz Kurtika, le sombre Rimzi Kipup et le souriant Changchi Kenchung, la Dorje Famo, la lait du tonnerre, et Karl Linga William et Iheji. Aîné me rejoignit et glissa sa main dans la mienne tandis que nous regardions le ciel dans un silence rempli d'effroi. Je m'étonnais que nous ne soyons pas tous aveuglés par le spectacle de lumière qui se déroulait là où il n'y avait que des étoiles tout à l'heure. De grandes fleurs blanches, des lumières stroboscopiques jaune soufre, des zébrures d'un rouge flamboyant, bien plus brillantes qu'une comète ou que la queue d'un météore, zébrées de balafres bleues, vertes, blanches et jaunes, chacune aussi claire et droite qu'une éraflure de diamants sur du verre, puis de soudaines explosions oranges qui semblaient se replier sur elles-mêmes en implosions silencieuses, suivies par d'autres lumières stroboscopiques, et une reprise des balafres rouges. Tout cela restait silencieux, mais la violence de leur éclat suffisait à nous donner envie de nous couvrir les oreilles et d'aller nous cacher dans un abri.
« Par les 10 enfers, qu'est-ce que c'est que ça ?»
demande l'homo d'Ondrub.
« Une bataille spatiale ?»
répondit Aîné. Sa voix semblait terriblement lasse.
« Je ne comprends pas !»
dit le Dalai Lama. Il n'avait pas l'air effrayé, simplement curieux.
Les autorités de la Pax nous ont assuré qu'il n'y aurait qu'un de leurs vaisseaux de guerre en orbite, le Jibril. Je crois que c'est ainsi qu'il s'appelle, qu'il s'agissait d'une mission diplomatique et non militaire. Le régent Rettingtokra me l'a aussi certifié.
La lait du tonnerre émit un bruit grossier.
Votre sainteté, le régent est à la solde de ces bâtards de la Pax.
Le petit garçon la regarda.
« Je crois que c'est vrai, votre sainteté, » dit Eiheji, son garde du corps. « J'ai entendu des rumeurs dans le palais. »
Le ciel était redevenu presque noir, mais il explosa de nouveau en une douzaine d'endroits. Le versant rocheux derrière nous saignait des reflets rouges, verts et jaunes.
« Comment pouvons-nous voir leur lance laser ?» alors qu'il n'y a pas de poussière ou d'autres particules colloïdales pour les souligner ?
Demanda le Dalai Lama. Ses yeux noirs brillaient. Apprendre que son régent le trahissait ne le surprenait pas, ou du moins cette nouvelle n'était pas aussi intéressante que la bataille qui se déroulait à des milliers de kilomètres au-dessus de nous. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de constater que le saint suprême du monde bouddhiste avait appris des rudiments de science. De nouveau, ce fut son garde du corps qui répondit.
« Certains vaisseaux ont dû être touchés et détruits, votre sainteté. Les rayons de lumière cohérente et les BCC deviennent visibles dans les champs de débris en expansion, l'oxygène gelé, la poussière moléculaire et les autres gaz. »
Cette remarque provoqua un moment de silence dans notre groupe.
« Mon père a regardé cela autrefois, sur Hyperion, »
susurra Rachel. Elle frotta ses bras nus comme s'il faisait subitement froid. Je clignai des yeux et contemplai la jeune femme. Je n'avais pas manqué la remarque d'Aîné sur Sol, le père de son ami. Je connaissais suffisamment les Kantos pour avoir reconnu en Rachel le bébé du pèlerinage légendaire d'Hyperion, la fille de Sol Weintraub. Mais j'avoue que je n'y avais pas vraiment cru. Dans les Kantos, Rachel était devenue une femme presque mythique, Moneta, qui avait voyagé à reculons dans le passé en pénétrant dans les tombeaux du temps avec le Gritch. Comment cette Rachel-là pouvait-elle être ici? Aîné passa le bras autour des épaules de son ami.
« Ma mère aussi, » dit-elle doucement.
Seulement on pensait alors que c'était les forces de l'hégémonie qui se battaient avec les extros.
« Qui est-ce alors ?»
demanda le Dalai Lama.
« Les extros contre la Pax ?» Et pourquoi les vaisseaux de guerre de la Pax sont-ils venus dans notre système sans y avoir été invités?
Plusieurs sphères blanches palpitèrent, grossirent, faiblirent et moururent. nous clignâmes tous des yeux pour en chasser les rémanences rétiniennes.
Je crois, votre sainteté, que les vaisseaux de guerre de la Pax étaient ici depuis l'arrivée de leur premier astronef, dit Aîné. Mais je ne pense pas qu'ils se battent contre les extros. Contre qui alors?
Demanda le petit garçon. Aîné leva de nouveau le visage vers le ciel.
Un des nôtres.
Soudain retentit une série d'explosions différentes des autres, plus proches, plus brillantes, suivies par trois traces de météores en feu. L'un éclata rapidement dans la très haute atmosphère et laissa une vingtaine de traînées de débris mineurs qui moururent vite. Le deuxième partit vers l'ouest comme une flèche, brûlant du jaune au rouge au blanc pur, et se disloqua à 20 degrés au-dessus de l'horizon en éparpillant une centaine de traînées plus petites d'un bout à l'autre des nuages. Le troisième cria à travers le ciel de l'ouest à l'est. Je dis cria délibérément parce qu'on put entendre d'abord un sifflement de bouilloire, puis un hurlement, ensuite un terrible rugissement de tornade, diminuant aussi rapidement qu'il avait surgi et pour finir il se brisa, à l'est, en trois ou quatre grosses masses enflammées dont toutes, sauf une, s'éteignirent avant d'atteindre l'horizon. Ce dernier fragment d'astronef en feu parut changer de trajectoire au dernier moment, avec des explosions de lumière jaune qui le précédèrent, le ralentirent, avant qu'il disparaisse à nos yeux. Nous attendîmes sur la plateforme supérieure pendant une demi-heure, mais sauf les douzaines de traînées de flammes de fusion que nous vîmes pendant les premières minutes, celles des astronefs qui accéléraient pour quitter Tien Shan, il n'y eut plus rien à voir. Les étoiles redevinrent enfin les hôtes les plus brillants du ciel, et tout le monde s'en alla, le Dalaï Lama pour aller dormir dans la résidence des moines, les autres vers leur domicile temporaire ou permanent sur les niveaux inférieurs. Aîné pria quelques-uns d'entre nous de rester, Rachel et Théo, Abétik, Lomo Dondrub et moi.
C'est le signe que j'attendais,
dit-elle très doucement quand tous les autres eurent quitté la plateforme.
Il faut partir demain.
Partir? Dis-je. Où? Pourquoi? Aîné me toucha le bras. J'interprétai cela comme si elle me disait « Je t'expliquerai plus tard ». Je me tus, et les autres prirent la parole.
« Les ailes sont prêtes, maître !»
assura Lomo. « J'ai pris la liberté de vérifier les combinaisons peau et les respirateurs dans le pavillon de Hachandimion, pendant que vous n'étiez pas là, » dit Abétik. « Ils sont tous en état de marche. »
« Nous finirons le travail et organiserons la cérémonie demain, » dit Théo. « Je voudrais bien partir, »
supplia Rachel.
« Pour aller où ? »
répétai-je en dépit des efforts que je faisais pour me taire et écouter.
« Vous êtes invité, »
ajouta Aîné, la main toujours sur mon bras. Cela ne répondait pas à ma question.
« Lomo et vous, Abétik, si vous êtes toujours d'accord. »
Lomo Dondrub lui adressa son large sourire. L'androïde hocha la tête. Je commençais à penser que j'étais le seul, dans les bâtiments du temple, à ne pas comprendre ce qui se passait.
« Bonne nuit à tous, » fit Aîné. « Nous nous en irons aux premières lueurs de l'aube. Vous n'êtes pas obligé de venir nous voir partir. »« Ah bah merde alors !»
s'exclama Rachel. Théo acquiesça d'un signe de tête.
« On sera là pour vous dire au revoir. »
poursuivit Rachel. Aîné les salua et leur toucha le bras. Tout le monde grimpa aux échelles ou descendit en glissant sur les câbles. Aîné et moi étions seuls sur la plateforme. Les cieux semblaient sombres après la bataille. Je m'aperçus que les nuages s'étaient levés au-dessus de la ligne de crête et effaçaient les étoiles comme un chiffon mouillé sur un tableau noir. Aîné ouvrit la porte de sa chambre, entra, alluma la lanterne et reparut sur le seuil.
Tu viens, Rol?
Nous avons parlé. Mais pas tout de suite. Les rapports sexuels semblent trop absurdes quand on les décrit. Même le fait de s'y adonner en un tel moment semble absurde après que le ciel nous fût littéralement tombé sur la tête et que ma bien-aimée se soit livrée à une espèce de scène. Mais l'amour physique n'est jamais absurde quand on le fait avec la personne qu'on aime vraiment. Et je l'aimais vraiment. Si je n'avais pas compris cela avant le soir de la scène, j'en pris alors conscience, complètement, totalement, et sans que subsiste le moindre doute. 2 heures environ s'étaient écoulées lorsqu'Aîné enfila un kimono et moi un yukata, et que nous passâmes du lit au shoji ouvert. Aîné fit du thé sur le petit fourneau encastré dans le tatami, et nous le bûmes assis sur le dos contre les montants opposés du shoji, nos jambes et nos orteils nus se touchant, mon flanc droit et son genou gauche dépassant au-dessus de l'abîme profond de plusieurs kilomètres. L'air froid sentait la pluie, bien que l'orage se fût déplacé vers le nord. Le sommet du Hengchang était enseveli sous les nuages, mais le jeu constant des éclairs illuminait les crêtes moins élevées.
Est-ce que Rachel est vraiment la Rachel des Cantos ?
Demandai-je. Ce n'était pas la question que j'aurais voulu poser en premier, mais la vraie, j'avais peur de l'énoncer.
Oui. C'est la fille de Sol Weintraub, la femme qui a attrapé la maladie de Merlin sur Hyperion et qui a vieilli à reculons de l'âge de 27 ans jusqu'à nouveau-né que son père a emmené en pèlerinage.
Et on la connaît aussi sous le nom de Moneta et de Mnémosyne.
L'admonitrice, murmura Aîné, et la mémoire. Des noms appropriés à son rôle à l'époque.
C'était il y a 280 ans,
et à des douzaines d'années-lumière sur Hyperion. Comment a-t-elle fait pour venir ici ?
Aîné sourit.
La vapeur qui émanait du thé chaud montait jusqu'à ses cheveux ébouriffés.
Je suis née il y a plus de 280 ans, dit-elle, et à des dizaines d'années-lumière d'ici, sur Hyperion.
Alors, elle est arrivée par le même chemin que toi ? Par les tombeaux du temps ?
Oui et non, répondit Aîné.
Elle leva la main pour arrêter ma protestation.
Je sais que tu souhaites un discours clair, Roll. Pas de paraboles ou de comparaisons ou de faux-fuyants. Je suis d'accord. L'heure est venue d'avoir une conversation ordinaire. Mais la vérité, c'est que les tombeaux du temps et le sphinx ne sont qu'une partie du voyage de Rachel.
J'attendis.
Tu te souviens des Cantos ?
Commença-t-elle. Je me souviens que le pèlerin appelé Sol a emmené sa fille après que la persona de Kitz l'eût sauvée du Gritch et qu'elle eût commencé à grandir normalement, l'a emmenée dans le sphinx, dans le futur. Je m'arrêtai.
Ce futur-ci ?
Non. Rachel est redevenue une enfant, puis une jeune femme dans un futur au-delà de celui-ci. Son père l'a élevée une seconde fois. Leur histoire est merveilleuse, Roll. Littéralement rempli de merveilles.
Je me frottais le front. Ma migraine avait disparu, mais elle menaçait maintenant de revenir.
Est-elle repassée par les tombeaux du temps, dis-je ?
Elle a revoyagé dans le temps par eux ?
En partie par eux. Elle est aussi capable de se déplacer toute seule dans le temps.
Je la regardais fixement. Cela frôlait la folie.
Aîné sourit comme si elle lisait dans mes pensées ou interprétait simplement mon expression.
Je sais que cela paraît dingue, Roll. Beaucoup de choses que nous avons encore à vivre sont très étranges.
Étrange, le mot est faible.
Un autre engrenage mental se mit en place en cliquetant.
Théo Bernard. Oui.
Il y avait un Théo dans les Cantos, n'est-ce pas ? Un homme... Il existait différentes versions du conte oral, le poème fait pour être chanté, et beaucoup de détails mineurs avaient sauté dans les versions populaires courtes. Grande Âme m'avait appris la plus grande partie du poème intégral, mais les passages qui m'ennuyaient n'avaient pas retenu mon attention.
« Théo Lane, »
dit Aîné.
À une certaine époque, assistant du consul sur Hyperion, plus tard premier gouverneur général de notre monde pour l'hégémonie. Je l'ai rencontré une fois quand j'étais petite fille. Un homme bien. Silencieux. Il portait des lunettes archaïques.
Cette Théo, dis-je en essayant de comprendre. Une espèce de changement de sexe, pensais-je.
Aîné fit non de la tête.
C'est presque ça, mais pas un cigare, comme aurait dit Freud.
Qui alors ?
Théo Bernard est l'arrière, etc. petite fille de Théo Lane. Son histoire est toute une aventure.
mais elle est née dans notre ère. Elle a fui les colonies de la Pax sur Alliance Maui et rejoint les rebelles. Elle a fait cela à cause de quelque chose que j'ai dit au premier Théo il y a presque 300 ans. Un message qu'ils se sont passés de génération en génération. Théo savait que je serais sur Alliance Maui quand j'étais... Tu peux répéter ? C'est ce que j'ai dit à Théo Lane, quand j'y serai. La connaissance en est restée vivante dans sa famille. Comme le pèlerinage du Gritch est resté vivant grâce au Kantos.
Alors tu peux vraiment voir le futur ?
Les futurs,
corrigea Aine.
Je t'ai dit que je le pouvais. Et tu m'as entendu ce soir.
Tu as vu ta propre mort?
Oui.
Tu me diras ce que tu as vu?
Pas aujourd'hui, Rol. Quand l'heure en sera venue.
Mais s'il y a plusieurs futurs,
dis-je en entendant le grognement de douleur dans ma propre voix,
pourquoi es-tu obligé de voir ta mort? Et si tu peux la voir, pourquoi ne pourrais-tu pas l'éviter?
Je pourrais éviter cette mort-là,
répondit-elle doucement.
Mais ce serait le mauvais choix.
Et comment la vie plutôt que la mort pourrait-elle être le mauvais choix?
Je m'aperçus que j'avais crié, et que je serrais les poings. Elle caressa mes poings de ses mains chaudes, les entoura de ses doigts minces.
C'est justement la question,
dit-elle si bas que je dus me pencher pour l'entendre. Les éclairs jouaient sur les épaulements du Heng Shan.
La mort n'est jamais préférable à la vie, mais parfois elle est nécessaire.
Je secouai la tête. Je me rendis compte que je devais avoir l'air renfrogné, mais je m'en moquais.
Me diras-tu quand je vais mourir ?
Elle croisa mon regard. Ses yeux noirs abritaient des abîmes.
Je l'ignore.
Répondit-elle simplement. Je clignai des yeux. Je me sentis vaguement blessé. Elle ne m'aimait pas assez pour regarder dans mon avenir ?
Bien sûr que je t'aime,
chuchota-t-elle.
C'est juste que j'ai choisi de ne pas regarder ces ondes de probabilité-là. Voir ma mort, c'est déjà... dur. Voir la tienne, ce serait...
Elle fit un bruit étrange, et je m'aperçus qu'elle pleurait. Je contournai le tatami pour l'entourer de mes bras. Elle se blottit contre ma poitrine.
« Pardonne-moi, ma grande, »
dis-je dans ses cheveux, bien que je n'ai pas dit clairement de quoi je lui demandais pardon. C'était étrange de se sentir à la fois si heureux et si misérable. L'idée de la perdre me donnait envie de crier, de jeter des pierres contre le flanc de la montagne. Comme pour faire écho à mes sentiments, le tonnerre gronda sur un pic au nord. J'essuyai ses larmes de mes baisers. Nous commençâmes par nous embrasser, le sel de ses larmes se mêlant à la chaleur de sa bouche. Puis nous fîmes de nouveau l'amour, et cette fois ce fut aussi lent, attentif et éternel que notre première étreinte avait été pressante. Quand nous nous étendîmes de nouveau dans la brise froide, joue à joue, sa main sur ma poitrine, elle dit
« Tu voulais me demander quelque chose ? Je l'ai deviné. C'était quoi ?»
Je pensais à toutes les questions qui étaient montées en moi pendant son temps de discussion, à toutes ces discussions que j'avais manquées et qu'il fallait que je rattrape afin de comprendre pourquoi la communion était nécessaire. Le cruciforme, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce que fabrique la Pax sur ces mondes dont toute la population a disparu? Qu'est-ce que le centre espère gagner à tout cela? Qui diantre est le Gritch, un monstre ou un gardien? D'où vient-il? Que va-t-il nous arriver? Dans le futur, que voyait-elle dont j'avais besoin pour que nous survivions, pour qu'elle puisse éviter le destin qu'elle connaissait avant sa naissance? Quel secret immense se cache derrière le vide qui lit, et pourquoi est-ce si important de se connecter à lui? Comment allions-nous faire pour quitter ce monde si la Pax avait vraiment enfoui l'unique portail d'Istran sous de la roche en fusion? Y avait-il des croiseurs de combat de la Pax entre le vaisseau du consul et nous? Qui étaient ces observateurs dont elle parlait et qui espionnaient l'humanité depuis des siècles?
Qu'est-ce que c'était que cet apprentissage du langage des morts et tout le reste? Pourquoi la Némès et ses clones ne nous avaient-ils pas encore tués?
Je demandais. Tu as été avec quelqu'un d'autre? As-tu fait l'amour avec quelqu'un avant moi? C'était de la folie. Cela ne me concernait pas. Elle avait presque 22 ans standard. J'avais couché avec des femmes avant elle, je ne me souvenais pas de leur nom de famille, mais quand j'étais dans la garde nationale, quand je travaillais au casino des Neuf Queues, pourquoi devrais-je m'occuper de... Quelle différence cela faisait si... Il fallait que je sache. Elle n'hésita qu'une seconde.
Notre première fois ensemble n'était pas ma... première fois, répondit-elle.
Je hochai la tête. Je me sentais un cochon et un voyeur d'avoir demandé cela. J'éprouvais une vraie douleur dans la poitrine, qui ressemblait beaucoup à des descriptions de l'angine de poitrine que j'avais entendues.
Tu l'aimais?
J'avais d'abord pensé à un homme. Mais pourquoi? Théo? Rachel? Elle s'entourait de femmes? Mes propres pensées me donnaient la nausée.
« Je t'aime, Roll, » m'assura-t-elle.
Elle me disait cela pour la seconde fois. La première, c'était quand nous nous étions dit adieu sur l'ancienne terre, il y avait plus de 5 ans et demi. Mon cœur aurait dû bondir à ces mots. Mais il me faisait trop mal. Il y avait une chose importante que je n'avais pas comprise. Mais... il y a eu un homme. Ces mots étaient comme du gravier dans ma bouche.
Tu l'as aimé?
Seulement un? Combien? Je voulais crier à mes pensées de se taire. Aîné mit le doigt sur mes lèvres.
Je t'aime, Roll. Souviens-t'en pendant que je te dis ces choses. Tout est compliqué. Qui je suis? Ce que je dois faire? Mais je t'aime. Je t'ai aimé la première fois que je t'ai vu, dans les rêves de mon futur. Je t'ai aimé quand nous nous sommes rencontrés dans la tempête de sable sur Hyperion, dans la confusion et les coups de feu avec le Gritch et le tapis Hawking. Te souviens-tu comment j'ai noué mes bras autour de toi quand nous volions sur le tapis en essayant de leur échapper? Je t'aimais alors.
J'attendis en silence. Le doigt d'aîné se déplaça de mes lèvres à mon cou. Elle soupira comme si le poids des mots pesait sur ses épaules.
« Bon, » admit-elle doucement, « il y a eu quelqu'un. J'ai fait l'amour avant toi.
Nous... était-ce sérieux ? » demandai-je. Ma voix me paraissait étrange, semblable au ton artificiel du vaisseau.
« Nous étions mariés. »
Un jour, sur la Canse, une rivière d'Hyperion, j'ai voulu me battre avec un marinier plus âgé qui pesait bien plus que moi et possédait une expérience de la boxe que je n'avais pas. Sans avertissement, il me donna un unique coup de poing sous la mâchoire qui obscurcit ma vision, me fit plier les genoux et m'envoya par-dessus bord dans la rivière. Il ne garda aucune dent contre moi et plongea pour me repêcher. Je repris conscience en 1 minute ou 2, mais il fallut des heures pour que mes oreilles cessent de tinter et que ma vision redevienne nette. Ce fut pire que cela. Je ne pus que rester couché à la regarder, regarder ma bien-aimée, et sentir ses doigts contre ma joue, aussi étrange et froid que ceux d'un étranger. Aîné ôta sa main. Il y avait quelque chose de pire.
Les 23 mois, 1 semaine et 6 heures dont je ne t'ai pas rendu compte.
C'était avec lui. Je ne me souviens pas avoir formulé ces 3 mots, mais j'ai entendu ma voix les dire.
Oui.
Marié. Je ne pus continuer. Aîné sourit, mais c'était le plus triste sourire que j'ai jamais vu, je crois.
Par un prêtre. Le mariage serait légal aux yeux de la Pax et de l'Église.
Serait?
Oui.
Vous êtes toujours mariés? J'avais envie de me relever et de vomir par-dessus le bord de la plateforme, mais je ne pouvais pas bouger.
durant une seconde, Aînée parut désorientée, incapable de répondre.
« Oui, »
dit-elle, les yeux brillants de larmes.
« Je veux dire, non, je ne suis plus mariée maintenant. Oh, tu... Merde, si seulement je pouvais !»«
Mais il est toujours vivant ?»
l'interrompis-je d'une voix aussi monotone et froide qu'un interrogateur de l'Inquisition du Saint-Office. Elle porta la main à sa joue. Ses doigts tremblaient. « Tu l'aimes, ma grande ?»«
Je t'aime, toi, Roll. »
Je m'écartai un peu, inconsciemment, pas exprès, mais je ne pouvais pas rester en contact physique avec elle pendant que nous avions cette discussion.
« Il y a encore autre chose, »
dit-elle. J'attendis.
« Nous avons... J'ai eu un enfant, un bébé. »
Elle me regarda comme si elle essayait de me forcer à comprendre tout cela par la force de son regard, pénétrant dans mon esprit. Cela ne marchait pas. « Un enfant ?» répétai-je stupidement. « Ma chère amie, ma petite fille amie devenue femme, devenue ma bien-aimée. Ma bien-aimée avait un enfant. Quel âge a-t-il ? »
demandai-je, percevant la banalité de cette question comme le tonnerre qui se rapprochait.
De nouveau, elle parut déconcertée, comme incertaine des faits. Pour finir, elle dit
« L'enfant est dans un endroit où je ne peux pas le retrouver en ce moment. Oh, ma grande !»
m'exclamai-je, oubliant tout devant sa douleur. Je la serrai contre moi tandis qu'elle pleurait.
« Je suis désolé, ma grande. Je suis vraiment désolé. »
fis-je en lui tapotant la tête. Elle se dégagea en essuyant ses larmes.
« Non, Roll, tu ne comprends pas. Tout va bien, ce n'est... Ça va. Bien. »
Je m'écartai d'elle et la regardai fixement. Elle était éperdue, sanglotante.
« Je comprends, » mentis-je. « Roll !»
Sa main se tendit vers la mienne et je la lui tapotais. Mais me dégageais des draps, enfilais mes vêtements et m'emparais de mon matériel d'escalade et de mon sac rangé à leur place près de la porte.
« Roll !»«
Je reviendrai avant l'aube, » dis-je, tourné vers elle, mais ne la regardant pas.
« Laisse-moi venir avec toi, »
supplia-t-elle debout, enveloppée dans le drap. Un éclair lui derrière elle. Un autre orage arrivait.
« Je reviendrai avant l'aube, »
répétai-je, et je franchis la porte avant qu'elle puisse s'habiller ou me rejoindre. Il pleuvait. C'était une averse froide de neige fondue. Les plateformes se couvraient rapidement de verglas. Je descendis les échelles à toute allure et dégringolai les escaliers qui vibraient sous mes pas, éclairés seulement par les éclairs occasionnels, et ne ralentis qu'une fois arrivé à plusieurs mètres plus bas, sur le sentier de corniche menant à la fissure où j'avais atterri avec le vaisseau. Je n'avais pas l'intention d'aller jusque-là. À un demi-clic du temple, des cordes statiques s'élevaient jusqu'au sommet de l'arête. L'averse glacée tambourinait le versant, les cordes rouges et noires étaient enrobées de glace. Je fixai les mousquetons au harnais et à la ligne, sortis du sac les élévateurs à moteur et les attachai sans revérifier les connexions, puis commençait à monter en jumard aux cordes glacées. Le vent se leva, fouettant ma veste et m'écartant de la paroi rocheuse. La neige fondue me martelait le visage et les mains. Je n'en tenais pas compte et montais, redescendant parfois brusquement de 3 ou 4 mètres lorsque les crampons des étriers glissaient sur la corde gelée, puis je reprenais et recommençais à grimper. J'émergeais des nuages, tel un nageur sortant de l'eau, à 10 mètres en dessous du sommet de la ligne de crête au bord coupant comme un rasoir. Ici, les étoiles brûlaient encore froidement, mais la masse de nuages tourbillonnants s'empilait contre la paroi nord et s'élevait autour de moi comme une marée blanche. Je glissais les élévateurs plus haut et montais en jumard jusqu'à ce que j'atteigne la zone relativement plate où étaient attachées les lignes statiques. Une fois arrivé là, je m'aperçus que je ne m'étais pas raccordé à la corde de sécurité.
Et merde pour la sécurité,
jurai-je en me mettant en route vers le nord sur la ligne de crête large de 15 centimètres. L'orage montait autour de moi. Au sud, le précipice n'était que des kilomètres d'air noir et vide. Ici, il y avait des plaques de glace et il commençait à neiger. Je trottais en direction de l'est, sautant par-dessus les endroits glacés et les crevasses, me foutant de tout. Pendant que j'étais ainsi obsédé par ma propre détresse, d'autres choses arrivaient dans l'univers humain. Sur Hyperion, quand j'étais un petit garçon, les nouvelles filtraient lentement de la Pax interstellaire à nos caravanes qui se déplaçaient sur la lande. Un événement important qui survenait sur Passem, ou le vecteur Renaissance, ou autre part, était nécessairement vieux de plusieurs semaines, voire des mois de déficit temporel en propulsion Hawking, plus les semaines de transit de Port-Romance ou toute autre cité à notre province. J'avais l'habitude de ne pas prêter attention à ce qui se passait ailleurs. Ce délai s'était raccourci, bien sûr, quand je servais de guide aux chasseurs venus d'autres mondes, mais c'était toujours des nouvelles racines et de peu d'importance pour moi. La Pax ne me fascinait pas, mais les voyages interstellaires, si. Puis, il s'était écoulé presque 10 ans entre notre séjour sur l'ancienne Terre et les 5 années de déficit de temps de mon odyssée en solitaire. Je n'avais pas l'habitude de penser aux événements qui se produisaient ailleurs, sauf s'ils me concernaient, telle l'obsession de la Pax à s'emparer de nous. Mais cela changerait bientôt. Cette nuit-là, sur Tien Shan, les montagnes du ciel, tandis que je courais stupidement dans le brouillard et la neige fondue sur l'étroite ligne de crête, certains événements se produisaient ailleurs. Sur Alliance Maui, où la longue succession de faits qui culminerait avec ma présence sur cette belle planète en compagnie d'aînés avait commencé, pourrait-on dire, par les amours de Siri et Mérine 400 ans auparavant, la révolte faisait rage. Les rebelles vivant sur les îles mobiles étaient devenus depuis longtemps disciples de la philosophie d'aînés, avaient bu son vin de communion, rejeté à jamais la Pax et le cruciforme, et menaient une guerre de sabotage et de résistance tout en essayant de ne pas blesser ou tuer les soldats qui occupaient leur monde. Pour la Pax, Alliance Maui présentait des problèmes spécifiques parce que c'était, à l'origine, une planète de vacances. Grâce à la propulsion Hawking, des centaines de milliers de riches chrétiens régénérés venaient là, tous les ans, profiter des mers chaudes, des belles plages de l'archipel équatorial et des migrations des îles mobiles et des dauphins. La Pax tirait aussi bénéfice des centaines de plateformes pétrolières situées hors de vue des sites touristiques, mais vulnérables aux attaques des îles mobiles ou des submersibles rebelles. Maintenant, de nombreux touristes rejetaient inexplicablement le cruciforme et devenaient disciples d'aînés. Ils refusaient l'immortalité. Le gouverneur planétaire, l'archevêque local, et les représentants du Vatican auxquels on avait fait appel à cause de cette crise n'y comprenaient rien. Sur la froide Sol Draconi Septem, où la plus grande partie de l'atmosphère avait gelé en un unique glacier géant, il n'y avait pas de touristes, mais la tentative de colonisation de la Pax tournait au cauchemar depuis 10 ans. Les aimables bandes de Chichatuk, qui nous avaient traités en amis 9 ans auparavant, étaient devenues d'implacables ennemis de la Pax. Le gratte-ciel congelé dans la glace atmosphérique, où le père Glaucus avait accueilli tous les voyageurs, resplendissait toujours de lumière en dépit du meurtre de cet homme bon par Adamant Nemes. Les Chichatuk gardaient ce lieu éclairé comme un sanctuaire. Ils savaient qui avait assassiné l'aveugle inoffensif et la tribu de Kushiat, Kushiat, Chiaku, Aishakut, Kushtu, Chishtitia, Chachia, tous ceux qu'aînés, Abétik et moi avions connus par leur nom. Les autres Chichatuk en accusaient la Pax, qui tentait de coloniser les zones tempérées le long de l'équateur, là où l'air était gazeux et où le grand glacier fondait jusqu'à l'ancien permafrost. Les Chichatuk, qui n'avaient pas entendu parler de la communion d'aînés, ni goûté à son empathie, fondaient sur la Pax comme un fléau biblique. Ils rabattaient vers les régions équatoriales les terribles spectres des neiges, creuseurs de tunnels, dont ils vivaient et qui se nourrissaient d'eux, lâchaient les monstrueuses bêtes blanches sur les colons et les missionnaires. Le tribut prélevé était effroyable. Les unités militaires de la Pax, que l'on fit venir pour tuer les Chichatuk primitifs, envoyèrent des patrouilles sur le glacier planétaire et dans les tunnels, mais ne les revirent jamais. Sur la cité planétaire de Vecteur Renaissance, la parole d'aînés sur le vide qui lie avait gagné des millions de disciples. Les fidèles de la Pax recevaient chaque jour, par milliers, la communion des mains de ceux qui avaient déjà changé. Leur cruciforme mourait et tombait en 24 heures. Ils sacrifiaient l'immortalité pour quoi? La Pax et le Vatican ne comprenaient pas, et à l'époque, moi non plus. Mais la Pax savait qu'elle devait contenir le virus. Chaque jour, chaque nuit, les soldats ouvraient les portes à coups de pied, entraient par les fenêtres, généralement dans les vieux secteurs industriels très pauvres de la cité planétaire. Les gens qui avaient rejeté le cruciforme ne résistaient pas par la violence. Ils se débattaient avec acharnement, mais refusaient de tuer s'il y avait moyen de l'éviter. Les soldats de la Pax, eux, n'hésitaient pas à le faire pour exécuter leurs ordres. Des milliers de disciples d'aînés moururent de leur vraie mort, d'anciens immortels qui ne connaîtraient plus jamais la régénération, et des dizaines de milliers furent arrêtés, envoyés dans des centres de détention où on les enfermait dans des caissons de fugue cryotechnique pour que leur sang et leur philosophie n'en contaminent pas d'autres. Mais pour un disciple d'aîné tué ou arrêté, des douzaines, des centaines restaient cachés, faisaient circuler son enseignement, offraient la communion à leur propre sang modifié et entretenaient une résistance en grande partie non violente. L'énorme machine industrielle de Vector Renaissance ne s'était pas encore enrayée, mais elle faisait des embardées et grinçait, chose jamais vue depuis que l'hégémonie avait fait de ce monde le lien industriel du Retz. Le Vatican envoya d'autres troupes et délibéra pour trouver comment réagir. Sur Tau Ceti Central, ex-centre politique du Retz, devenu une planète jardin très peuplée et à la mode, la rébellion prit une autre forme. Certes, les visiteurs venus d'autres mondes y avaient apporté la contagion anti-cruciforme d'aînés, mais le gros problème pour le Vatican, c'était l'archevêquesse Achilla Silvaski, une intrigante qui, deux siècles auparavant, s'était emparée du rôle de gouverneur autocrate de Tessé-Carré. C'était elle qui avait tenté de s'opposer à la réélection du pape en suscitant des intrigues entre les cardinaux, et maintenant, ayant échoué, elle mettait en scène sa propre version à l'échelle planétaire de la réforme pré-égyrienne, annonçant que l'Église catholique de Tau Ceti Central devrait dorénavant la reconnaître pour pontife et se séparer définitivement de l'Église interstellaire corrompue de la Pax. Comme elle avait soigneusement fait alliance avec les évêques du coin chargés des machines et des cérémonies de la résurrection, elle pouvait contrôler ce sacrement et donc l'Église locale. En outre, l'archevêquesse s'était assuré les faveurs des autorités militaires locales en leur distribuant des terres, de l'argent et du pouvoir, jusqu'à ce qu'un événement sans précédent dans la flotte de la Pax se produise. Un coup d'état militaire qui renversa la plupart des officiers supérieurs du système de Tau Ceti et les remplaça par des partisans de la nouvelle Église. Aucun vaisseau de classe archange ne fut saisi, mais 18 croiseurs et 41 vaisseaux torches s'engagèrent à défendre la nouvelle Église de Tessé-Carré et son nouveau pontife. Des dizaines de milliers de membres fidèles de l'Église protestèrent. Ils furent arrêtés, menacés d'excommunication, c'est-à-dire de la privation immédiate de leur cruciforme, et relâchés en liberté provisoire sous l'œil attentif des forces de sécurité de la nouvelle Église de l'archevêquesse, du nouveau pape. Plusieurs ordres religieux, en particulier les jésuites, refusèrent de se soumettre. La plupart furent arrêtés, excommuniés et exécutés sans opposition. Cependant, plusieurs centaines réussirent à s'échapper et utilisèrent leur réseau pour organiser la résistance contre l'ordre nouveau, une résistance d'abord non violente, puis de plus en plus intense. Beaucoup de jésuites avaient servi comme officiers prêtres dans la Pax, avant de retourner à la vie cléricale civile, et ils exploitèrent leur savoir-faire militaire pour provoquer des ravages dans le système. Le pape Urbain XVI et ses conseillers de la flotte de la Pax étudièrent les options qui s'offraient à eux. Déjà, la défaite écrasante des extros par la Grande Croisade avait été retardée pour plusieurs raisons. Les harcèlements incessants du capitaine de Soya, le besoin d'envoyer des unités de la flotte vers une douzaine de mondes afin de réprimer les rébellions provoquées par la maladie contagieuse d'aînés, les exigences logistiques du piège préparé dans le système de Tien Shan, et maintenant ces autres rébellions sans rapport avec le reste. L'amiral Maruzin, ayant conseillé d'ignorer l'hérésie de l'archevêquesse jusqu'à ce que les autres objectifs politiques et militaires soient atteints, le pape Urbain XVI et son secrétaire d'État Lourdus Ami décidèrent de détourner 20 archanges, 32 croiseurs ancien style, 8 vaisseaux de transport et 100 vaisseaux torches vers le système de Tossetti, même s'il devait s'écouler plusieurs semaines de déficit de temps avant que les vieux vaisseaux à propulsion Hawking arrivent. Une fois regroupés dans ce système, le corps expéditionnaire devait triompher de la résistance des spationnefs rebelles, se mettre en orbite autour de TC carré, exiger l'immédiate reddition de l'archevêquesse et de tous ceux qui la soutenaient, et s'il n'arrivait pas à exécuter cet ordre, scorifier autant de régions de la planète qu'il le faudrait pour détruire l'infrastructure de la nouvelle église. Après cela, des dizaines de milliers de marines descendraient pour occuper les centres urbains qui subsisteraient et rétablir le pouvoir de la Pax et de sa Sainte Mère l'Église. Sur Mars, dans le système de l'ancienne Terre, la rébellion avait empiré, en dépit des bombardements effectués depuis l'espace et des constantes incursions militaires lancées des vaisseaux en orbite. 2 mois standard plus tôt, le gouverneur Clark Palau et l'archevêque Robson étaient tous deux morts de leur vraie mort lors d'une attaque nucléaire suicide contre le palais où ils s'étaient exilés sur Phobos. La réaction de la Pax avait été terrifiante. Des astéroïdes déviés de la ceinture proche et lancés sur Mars, un bombardement intensif au plasma et des attaques nocturnes aux lances qui tranchèrent dans la nouvelle tempête de sable planétaire soulevée par les chutes d'astéroïdes comme autant de projecteurs mortels s'entrecroisant sur le désert gelé. Les rayons de la mort auraient été plus efficaces, mais la flotte de la Pax voulait faire de Mars un exemple qui soit bien visible. Les résultats ne furent pas exactement ceux que la Pax escomptait. L'environnement terraformé de Mars, devenu précaire après des années de médiocre entretien, s'effondra. L'atmosphère ne fut plus respirable que dans le bassin des Lasses et quelques autres poches basses. Les océans disparurent, s'évaporèrent lorsque la pression atmosphérique chuta, ou gelèrent de nouveau au pôle et dans la sous-croûte de permafrost. Les arbres et les plantes les plus grandes moururent. Seuls les cactus croquants indigènes et les vergers de Bradbury s'accrochaient encore à la vie dans un vide presque total. Les tempêtes de sable dureraient des années, rendant tout simplement impossible l'envoi de patrouilles des marines de la Pax sur Mars. Mais les Martiens, surtout les militants palestiniens, s'étaient adaptés à cette vie et préparés à cette éventualité. Ils se blottissaient dans leurs trous, tuaient les soldats de la Pax quand ils atterrissaient, et attendaient. Les missionnaires du Temple qui vivaient dans les autres colonies martiennes préconisèrent vivement une adaptation nanotech définitive aux conditions planétaires originelles. Des milliers et des milliers de personnes relevèrent le défi, permettant aux machines moléculaires de transformer leur ADN et leur corps en harmonie avec la planète. Fait plus inquiétant encore pour le Vatican, des batailles spatiales éclatèrent lorsque les vaisseaux qui avaient autrefois appartenu à la supposée défunte machine de guerre martienne sortirent de leur cachette dans la lointaine ceinture de Kuiper et entamèrent une série d'attaques surprises sur les convois de la flotte de la Pax traversant le système de l'ancienne Terre. Le pourcentage de morts fut de 5 pour 1 en faveur de la flotte, mais ces pertes étaient inacceptables et poursuivre des opérations militaires sur Mars coûtait un prix fou. L'amiral Maruzin et les chefs d'état-major conseillèrent à sa sainteté de mettre fin à ses pertes en laissant, pour le moment, la planète se détériorer. L'amiral assura à sa sainteté que rien ne pourrait s'en échapper. Il fit remarquer que n'importe comment, il ne restait plus rien de vraiment valable dans le système de l'ancienne Terre, maintenant que Mars était intenable. Le pape écouta, mais refusa d'autoriser la retraite. À chaque conférence, le cardinal Lourdus Ami soulignait l'importance symbolique de la présence de la Pax dans ce système-là. Sa sainteté décida d'attendre avant de prendre sa décision. L'hémorragie de vaisseaux, d'hommes, d'argent et d'équipements continua. Sur Mare Infinitus, l'arrivée du virus d'Aîné exacerba la rébellion ancienne des contrebandiers sous-mariniers, des pêcheurs braconniers et des centaines de milliers d'indigènes obstinés qui avaient toujours refusé la croix. Les grandes zones de pêche devinrent, à peu de choses près, interdites aux flottes non escortées par la Pax. Les bateaux robots et les plateformes flottantes isolées furent attaquées et coulées. On vit de plus en plus de léviathans gueules de lampe mortelles dans les basses eaux, et l'archevêquesse Jane Kelly s'emporta contre les autorités de la Pax qui n'arrivaient pas à résoudre le problème. Quand l'évêque Melandriano lui conseilla la modération, Kelly l'excommunia. Melandriano déclara que les maires du Sud se séparaient de la Pax et de l'Église, et des milliers de fidèles suivirent ce chef charismatique. Le Vatican envoya d'autres vaisseaux de la flotte de la Pax, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour apaiser ces luttes à quatre participants entre les rebelles, les forces de l'archevêquesse, celles de l'évêque et les gueules de lampe. Au milieu de toute cette confusion et de tout ce carnage, le message d'Aîné voyageait à la vitesse de la parole et de la communion secrète. La rébellion, à la fois violente et spirituelle, flambait partout. Sur les mondes où Aîné s'était rendu, Ixion, Patofa, Amritsar et Groombridge-Dyzende, sur Tsingtao Sichuangpana, où la nouvelle d'un rassemblement de non-chrétiens sur d'autres planètes créa d'abord une panique, puis une résistance féroce à tout ce qui venait de la Pax, sur Denebdrey, où la République de Jamnu déclara que le port d'un cruciforme serait puni de décollation, sur Fuji, où le message d'Aîné fut d'abord apporté par des renégats du Mercantilus de la Pax, et se propagea comme un incendie planétaire dévastateur. Sur le monde désertique de Vitus Grey Balienus B, où l'enseignement d'Aîné arriva par des réfugiés d'amertume de Sibiatus et fut renforcé par la prise de conscience que le mode de vie de la Pax détruirait leur culture à jamais, le peuple de l'hélice du spectre d'Amoyette menait le combat. La ville de Kéroatambat fut libérée dès le premier mois de la lutte, et la base de la Pax, à Bombassino, devint une forteresse assiégée. Le commandant Solsnikov demanda de l'aide à grands cris, mais le Vatican et les commandants de la flotte, occupés ailleurs, lui ordonnèrent d'être patient et menacèrent de l'excommunier s'il ne mettait pas fin à la rébellion par ses propres moyens. Solsnikov le fit, mais pas d'une manière que la flotte de la Pax et sa sainteté auraient approuvé. Il conclut avec les armées de l'hélice du spectre d'Amoyette un traité de paix dans lequel il était dit que les forces de la Pax n'interviendraient dans les campagnes qu'avec la permission des indigènes. En échange, la base de Bombassino obtenait le droit de continuer à vivre. Solsnikov, le colonel Vinara et les autres chrétiens fidèles à l'Église attendirent le châtiment inéluctable de la Pax et du Vatican, mais des civils modifiés par Aîné, appartenant à l'hélice du spectre, venaient faire leur marché à Bombassino, parler aux soldats, manger et buvaient avec eux, se mêlaient aux hommes et aux femmes de la Pax découragés, leur racontaient leur histoire et leur offraient de participer à la communion. Beaucoup acceptèrent. Cela, bien sûr, n'était que la plus minuscule tranche des événements qui se déroulaient sur des centaines de mondes de la Pax durant cette dernière et triste nuit que je passais sur Tian Shan. Je n'avais aucune intuition de ces événements, bien sûr, mais si cela avait été le cas, si j'avais déjà maîtrisé le savoir-faire et la discipline qui permettent d'apprendre ces choses par l'entremise du vide qui lit, je ne m'y serais pas intéressé. Aîné avait aimé un autre homme. Ils s'étaient mariés. Elle devait toujours l'être, mariée. Elle n'avait parlé ni de divorce ni de mort. Elle avait eu un enfant. J'ignore pourquoi ma négligence ne provoqua pas une chute mortelle durant ces heures de folie sur l'arête gelée de Zhou Kung et de Suang Kunsu. Pour finir, je retrouvais la raison et rentrais par la ligne de crête en rappel sur les cordes statiques, si bien que je pus rejoindre Aîné aux premières lueurs de l'aube. Je l'aimais. Elle était ma chère amie. J'aurais donné ma vie pour la protéger. Une occasion de le prouver me serait offerte ce jour-là, inévitablement créée par les événements qui se déroulèrent peu après mon retour au temple suspendu dans les airs, et notre départ vers l'est. L'aube ne s'était pas levée depuis longtemps que déjà, dans le vieux gompa niché au pied du phallus de Shiva, le cardinal Mustapha, l'amiral Margaret Wu, le père Farrell, l'archevêque Breck, le père Leblanc, Radamant Nemes et ses deux clones se réunirent pour discuter. En réalité, ce furent les humains qui tinrent conférence, pendant que Nemes, sa sœur et son frère restaient silencieux, devant la fenêtre, à regarder les nuages tourbillonnants autour du lac de la Loutre, sous le pic de Shivling.
« Et vous êtes sûr que le vaisseau dévoyé, le Raphaël, a été éliminé ?»
dit le grand inquisiteur.
« Absolument certaine, » répondit l'amiral Wu, « bien qu'il ait détruit 7 de nos archanges avant d'être abattu. »
Elle secoua la tête.
De Soya était un brillant tacticien. Quand il devint apostat, ce fut vraiment l'œuvre du mauvais.
Le père Farrell se pencha sur la table en bois de bonsaï ciré.
« Et il n'y a aucun risque que De Soya ou l'un des autres ait survécu. »
L'amiral Wu haussa les épaules.
C'était presque une bataille en orbite. Nous avons laissé le Raphaël pénétrer dans l'espace cislunaire avant d'activer notre piège. Des milliers de débris, surtout de nos infortunés vaisseaux, ont pénétré dans l'atmosphère. Aucun membre de nos équipages n'a survécu, semble-t-il. Du moins, aucune balise n'a été détectée. Si nos ennemis s'en sont tirés, il y a beaucoup de chances pour que leur nacelle soit tombée dans les océans toxiques.
Pourtant,
commença l'archevêque Breck, c'était un homme silencieux, cérébral et circonspect. Wu paraissait épuisé et irrité.
« Votre éminence, »
dit-elle vivement en s'adressant à Breck, mais les yeux tournés vers Mustapha.
« Nous pouvons régler la question si vous nous permettez d'envoyer des vaisseaux de descente, des glisseurs et des VEM dans l'atmosphère. »
Breck cligna des yeux.
« Non, » rétorqua Mustapha. Nous avons l'ordre de dissimuler toute présence militaire jusqu'à ce que le Vatican nous ordonne de passer à la dernière étape de notre capture de la fille. »
Wu sourit avec une amertume apparente.
« La bataille d'hier soir a dû rendre cet ordre quelque peu obsolète, »
fit-elle doucement.
« Notre présence militaire a été plutôt frappante. »
« Oui, » reconnut le père Leblanc. « Je n'avais jamais rien vu de pareil. »
L'amiral Wu s'adressa à Mustapha.
« Votre Excellence, les habitants de cette planète n'ont pas d'armes à énergie, pas de détecteur de propulsion Hawking, pas de défense orbitale, pas de détecteur gravitonique. Bon sang, ils n'ont pas de radar ou de système de communication, semble-t-il. Nous pouvons envoyer des vaisseaux de descente ou des avions de combat dans l'atmosphère pour chercher les survivants sans même qu'ils le sachent. Ce serait moins indiscret que le combat au laser d'hier soir et...
Non, »
dit le cardinal Mustapha. Et il était impossible de douter du caractère définitif de sa décision. Le grand inquisiteur releva la manche de sa robe pour regarder son chronomètre.
« Le courrier drone du Vatican doit arriver d'un instant à l'autre avec l'ordre final d'appréhender le vecteur de contagion appelé Aîné. Rien ne doit compliquer cette opération. »
Le père Farrell frotta ses joues maigres.
Tokra, le régent, m'a appelé ce matin par le canal com que nous lui avons alloué. Il semble que leur précieux et précoce petit Dalai Lama ait disparu.
Breck et Leblanc levèrent les yeux, surpris.
Peu importe, dit Mustapha, visiblement au courant. Rien n'importe pour le moment, sauf recevoir le dernier feu vert de cette mission et arrêter Aîné.
Il regarda l'amiral Wu.
Et je vous ordonne de dire à la garde suisse et aux officiers des marines qu'il ne faut faire aucun mal à la jeune femme.
Wu hocha la tête d'un air las. On le lui avait ordonné de multiples fois depuis des mois.
Quand croyez-vous que le drone va nous parvenir?
Demanda-t-elle au cardinal. Radamante Nemes et ses deux clones se redressèrent et s'avancèrent vers la porte.
« Le temps de l'attente est terminé, »
dit Nemes avec un sourire sur ses lèvres minces.
« Nous allons vous rapporter la tête d'Aîné. »
Le cardinal Mustapha et les autres se levèrent comme un seul homme.
« Arrêtez !»
beugla le grand inquisiteur.
« Vous n'avez pas reçu l'ordre de bouger !»
Nemes sourit et se tourna vers la porte. Tous les prêtres se mirent à crier. L'archevêque Jean-Daniel Breck se signa. L'amiral Wu sortit son pistolet à fléchette de son holster. Le reste arriva trop vite pour qu'on puisse le percevoir. L'air parut devenir flou. Némès, Sylla et Briaré, qui étaient sur le seuil de la porte, à 8 mètres de la table, disparurent, et en une seconde, 3 statues de Mercure miroitant surgirent parmi les silhouettes en robe noire ou rouge, debout autour de la table. Sylla intercepta l'amiral Margaret Wu avant qu'elle ait pu lever son pistolet à fléchette. Un bras chromé s'estompa. La tête de Wu tomba sur la table polie. Le corps décapité resta debout durant quelques secondes, une impulsion nerveuse aléatoire ordonna au doigt de la main droite de se refermer, et le pistolet à fléchette tira, brisant les pieds de la lourde table et fendant le sol dallé en un millier d'endroits. Le père Leblanc s'interposa entre Briaré et l'archevêque Jean-Daniel Breck. La forme argentée et floue éviscéra Leblanc. Breck laissa tomber son verre et courut dans la pièce voisine. Brusquement, Briaré disparut, ne laissant derrière lui qu'une douce implosion d'air là où la forme floue se trouvait une seconde auparavant. Un cri bref retentit dans l'autre pièce, interrompu presque avant d'avoir jailli. Mustapha recula devant Radamante Némès. Elle s'avançait d'un pas lorsqu'il en faisait un en arrière. Le champ flou qui l'entourait disparut, mais elle ne parut pas plus humaine ou moins menaçante pour autant.
« Soyez maudite, chose immonde !» murmura le cardinal. « Allez-y, je n'ai pas peur de mourir !»
Némès haussa un sourcil.
« Bien sûr que non, votre excellent. Mais vous changerez peut-être d'avis si je vous dis que nous allons jeter ces corps. Et cette tête ?»
Elle montra du doigt les yeux de Margaret Wu, qui venait juste de cesser de cligner et regardait maintenant dans le vide, tel un aveugle.
« Dans l'océan acide, afin qu'aucune résurrection ne soit possible. »
Le cardinal Mustapha atteignit le mur et s'arrêta. Némès n'était plus qu'à 2 pas de lui.
« Pourquoi faites-vous cela ? »
demanda-t-il d'une voix ferme. Némès haussa les épaules.
« Nos priorités divergent à partir de maintenant. Êtes-vous prêt, grand inquisiteur ?»
Le cardinal fit le signe de croix et dit un acte de contrition hâtif. Némès sourit de nouveau. Son bras droit et sa jambe droite devinrent des membres argentés miroitants, et elle s'avança.
Mustapha la regarda, stupéfait. Elle n'allait pas le tuer. Avec des mouvements trop rapides pour être détectés, elle lui cassa le bras gauche, puis le droit, lui faucha les 2 jambes d'un coup de pied, les brisant en morceaux, puis l'aveugla avec 2 doigts qui s'arrêtèrent juste avant de pénétrer dans le cerveau. Jamais le grand inquisiteur n'avait poussé un tel rugissement de douleur. Il entendit tout de même la voix de Némès, toujours monotone et désincarnée.
« Je sais que l'autochirurgien du vaisseau de descente ou celui du Gibril va vous réparer, » dit-elle. « Nous leur avons envoyé le signal. Ils seront là dans quelques minutes. Quand vous verrez le pape et ses parasites, dites-leur que ceux auxquels je dois rendre compte n'ont pas envie que la fille vive. Nous nous en excusons, mais il faut qu'elle meure. Et dites-leur de faire attention à l'avenir, de ne pas agir sans le consentement de tous les éléments du centre. Adieu, votre excellence. J'espère que le doc du Gibril pourra vous faire repousser des yeux. Ce que nous sommes sur le point de faire vaudra la peine d'être vu. »
Mustapha entendit des pas, le bruit de la porte glissière, puis rien que les cris de quelqu'un qui souffrait horriblement. Il lui fallut plusieurs minutes pour se rendre compte que c'était lui qui hurlait ainsi. Quand je revins au temple suspendu dans les airs, les premières lueurs de l'aube perçaient le brouillard, mais la matinée restait sombre, pluvieuse et froide. J'avais fini par prendre suffisamment le dessus sur ma détresse et ma distraction pour effectuer avec une grande prudence ma descente en rappel des lignes statiques, et heureusement car plusieurs fois les freins du matériel de rappel glissèrent sur la ligne enrobée de glace, et j'aurais fait une chute mortelle si les cordes de sécurité ne m'avaient pas arrêté. Aînée était réveillée, habillée et prête à partir lorsque j'arrivais. Elle avait son anorak thermique, son harnais et ses bottes d'escalade. Abétik et Lomo Dondrub étaient pareillement équipés, et les deux hommes portaient à l'épaule des paquets longs, enveloppés dans du nylon, et qui paraissaient lourds. Ils partaient avec nous. D'autres étaient là pour nous dire adieu. Théo, Rachel, la Dorje Famo, le Dalai Lama, Georges Tsarong, Jigme Norbu. Ils semblaient tristes et inquiets. Aînée avait l'air lasse. J'étais sûr qu'elle n'avait pas dormi plus que moi. Nous faisions une belle paire d'aventuriers fatigués. Lomo s'avança et me tendit l'un des longs colis empaquetés dans du nylon. Il était lourd, mais je le mis à l'épaule sans poser de questions ni me plaindre. Je pris le reste de mon équipement, répondis aux questions de Lomo sur l'état des cordes de la ligne de crête. Tout le monde pensait que j'étais allé en reconnaissance. Puis je reculai pour contempler mon amie, ma bien-aimée. Quand elle me lança un regard scrutateur, je répondis d'un hochement de tête. « Tout va bien. Je vais bien. Je suis prêt à partir. Nous parlerons de cela plus tard. » Théo pleurait. Je compris que c'était une séparation grave. Nous ne nous reverrions peut-être pas, même si Aînée avait dit aux deux autres femmes que tout le monde serait réuni avant la tombée de la nuit. Mais j'étais trop engourdi émotionnellement et trop épuisé pour réagir. Je m'écartai un moment du groupe pour respirer à fond et me reconcentrer. J'aurais probablement besoin de tous mes esprits pour survivre dans les heures à venir. L'ennui, quand on est passionnément amoureux, pensais-je, c'est que cela vous prive de beaucoup trop de sommeil. Nous partîmes par la plateforme Est, descendîmes au trot la corniche glacée, passâmes devant les cordes que je venais d'utiliser et atteignîmes la fissure sans incident. Les bonsaïs et les champs de coupe semblaient anciens et irréels dans le brouillard glacé mouvant, les branches sombres dégouttaient sur nos têtes quand elles surgissaient brusquement de la brume. Le bruit des cours et des chutes d'eau me parut plus fort que dans mes souvenirs, lorsqu'à notre gauche, le torrent bondit dans le vide du haut du dernier surplomb. Les cordes fixées aux replis les plus élevés de la fissure étaient vieilles et moins fiables, aussi Lomo prit-il la tête, suivi par Aînée, puis Abétik, et je passai en dernier. Je remarquai que notre ami l'androïde grimpait aussi rapidement et efficacement qu'il l'avait toujours fait, malgré l'absence de main gauche. Une fois arrivé en haut, nous nous retrouvâmes au-delà du point le plus éloigné de mon excursion nocturne, la crevasse barrait le sentier de la ligne de crête que j'avais empruntée. Les difficultés devinrent sérieuses lorsque nous nous engageâmes sur le versant sud de la montagne, dans le plus étroit des chemins, par des corniches usées, des effleurements rocheux, parfois un glacier, et des pentes déboulies. La ligne de crête au-dessus de nous n'était qu'un sérac couvert de neige mouillée et lourde, surplomb glacé impossible à parcourir. Nous avancions en silence, sans même un chuchotement, conscient que le moindre bruit pouvait déclencher une avalanche qui nous balayerait en une seconde de ses rebords larges d'une dizaine de centimètres. Pour finir, quand le chemin devint trop rude, nous nous encordâmes en faisant courir la ligne dans les mousquetons et en attachant une corde double à nos harnais composée d'un réseau de sangles. Maintenant, si l'un de nous tombait, il serait retenu ou nous tomberions tous. Avec Lomo pour guide, marchant plus vigoureusement que jamais, franchissant avec confiance des abîmes remplis de brouillard et des crevasses glacées que j'aurais hésité à affronter, je pense que le fait d'être attaché nous rassurait. Je ne connaissais toujours pas notre destination. Je savais que la grande crête qui venait de Kunlun et passait devant Jokung se prolongeait encore sur quelques kilomètres pour finir par descendre, soudain et d'une manière dramatique, sur plusieurs clics avant de disparaître dans les nuages toxiques. Durant certaines semaines au printemps, les marées et les caprices de l'océan et des nuages abaissaient suffisamment le niveau des vapeurs toxiques pour que la chaîne en émerge, permettant aux caravanes de marchandises, aux pèlerins, aux moines, aux voyageurs et aux simples curieux de se rendre à l'est de l'Empire du Milieu jusqu'au Taishan, le grand pic de la région, le point habitable le plus inaccessible de la planète. On disait que les moines qui vivaient sur le Taishan ne revenaient jamais dans l'Empire du Milieu ou en aucun autre point des montagnes du ciel. depuis un nombre inconnu de générations, ils consacraient leur vie aux tombes, aux gompas, aux cérémonies et aux temples mystérieux du plus sacré des sommets. En cette saison d'intempéries, je me rendis compte que si nous commencions à descendre, nous ne saurions pas que nous avions quitté les nuages tourbillonnants de la mousson pour les vapeurs toxiques bouillonnantes avant que l'air empoisonné nous tue. Nous ne descendîmes pas. Après plusieurs heures d'un voyage presque silencieux, nous atteignîmes le précipice situé à la frontière occidentale de l'Empire du Milieu. Le Taishan n'était pas visible. Bien que les nuages se soient un peu éclaircis, on n'apercevait pas grand-chose, sauf la paroi rocheuse mouillée, le brouillard tournoyant et le paysage de nuages qui nous entourait. Là, sur le bord occidental du monde, il y avait une large corniche et nous nous assîmes avec soulagement pour sortir les casse-croûtes de nos sacs et boire l'eau de nos gourdes. Les minuscules plantes succulentes qui recouvraient ces prairies de montagne deviendraient tumescentes en se gorgeant de la première humidité apportée par la mousson. Lorsque nous eûmes mangé et bu, Lomo et Abétique commencèrent à défaire nos trois gros ballots. Aîné ouvrit la fermeture éclair de son sac, qui semblait plus lourd que ceux des hommes. Je ne fus pas surpris par ce que contenaient ces trois paquets, du nylon, des cadres et des supports en alliage, des gréements, et dans celui d'aîné, d'autres choses du même genre, ainsi que les deux combinaisons peau et les deux respirateurs que j'avais emportés du vaisseau et complètement oubliés. Je soupirais et regardais vers l'est.
Alors, nous allons essayer de gravir le Taishan ?
Oui, répondit aîné.
Elle se mit à ôter ses vêtements. Abétique et Lomo détournèrent les yeux, mais je sentis mon cœur cogner de colère à l'idée que d'autres hommes voyaient mon aimé nu. Je me contrôlai, préparai l'autre combinaison peau et commençai à enlever mes propres vêtements, les pliant pour les ranger dans mon sac au fur et à mesure que jetais chaque couche. L'air était froid et le brouillard visqueux sur ma peau. Lomo et Abétique assemblèrent les paravoiles pendant qu'Aîné et moi nous nous habillions. Les combinaisons peau étaient exactement cela, presque une seconde peau, mais le harnais et l'appareil du respirateur ménageaient un peu notre pudeur. Le capuchon épousait plus la tête que le casque d'un scaphandre et collait mes oreilles contre mon crâne. Les filtres ne laissaient passer que la transmission par Philcom. Ils les capteraient lorsque nous serions réellement hors de l'atmosphère. Avec les pièces que nous avions transportées, Lomo et Abétique assemblèrent quatre deltaplanes. Comme pour répondre à ma question non formulée, Lomo dit
« Je peux seulement vous montrer les courants ascendants et m'assurer que vous atteigniez bien le jet stream. Il me serait impossible de survivre à cette altitude, et je n'ai pas envie de me rendre sur le Taishan alors qu'il y a si peu de chances d'en revenir. »
Aîné toucha le bras de l'homme puissant.
« Il n'y a pas de mots pour vous exprimer notre reconnaissance, de bien vouloir nous guider jusqu'au jet stream. »
Le hardi volant rougit vraiment. « Et Abétique ?» demandai-je en m'apercevant que je parlais de notre ami comme s'il n'était pas là. Alors je me tournai vers l'androïde et lui dis
« Et vous ? Il n'y a pour vous ni combinaison peau ni respirateur. »
Abétique sourit. J'avais toujours trouvé que ces rares sourires étaient l'expression humaine la plus imprégnée de sagesse que j'ai jamais vue, même si l'homme à la peau bleue n'était pas techniquement humain.
« Vous oubliez, Achandimion, répondit-il, que j'ai été conçu pour supporter un peu plus de sévices que le corps humain moyen. »
« Mais la distance, commençai-je.
Le Taishan était à plus de 100 kilomètres de là, et même si nous atteignions le jet stream, nous serions pendant presque une heure dans un air raréfié, beaucoup trop ténu pour être respiré. » Abétique attacha le dernier gréement de son deltaplane, une jolie chose avec une grande aile bleue de près de 10 mètres d'envergure, et dit
« Si nous avons assez de chance pour couvrir cette distance, j'y survivrai. »
Je hochai la tête et allai m'introduire dans le harnais de mon cerf-volant, sans poser d'autres questions, sans regarder aîné, sans lui demander pourquoi nous devions, tous les quatre, risquer notre vie de cette manière, quand soudain, mon ami surgit à mes côtés.
« Merci, Roll, » dit-elle assez fort pour que tous l'entendent. Tu fais tout cela pour moi, par amour et par amitié. Je te remercie de tout mon cœur. »
Je fis un geste, brusquement incapable de parler, gêné qu'elle me remercie alors que les deux autres étaient prêts à sauter aussi dans le vide pour elle. Mais elle n'avait pas fini de parler.
« Je t'aime, Roll, »
dit Aînée en se dressant sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur la bouche. Elle recula, me regarda, et ses yeux noirs étaient insondables.
« Je t'aime, Roll Endymion. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. »
Je restais perplexe et confondu tandis que nous nous enfermions dans les agrès de nos paravoiles, à l'ultime bord du néant. Lomo fut le dernier à s'attacher. Avant, il passa de Abétique à Aînée et à moi, vérifiant notre gréement, et chaque écrou, boulon, amarrage de tension et instaveld de nos cerfs-volants. Satisfait, il hocha respectueusement la tête en direction de Abétique, s'attacha dans son propre appareil à l'aile rouge, avec une rapidité née d'une longue pratique et d'une immense discipline, puis s'avança vers le bord de l'escarpement. Même les plantes succulentes ne poussaient plus sur ce dernier mètre, comme si elles avaient peur de tomber. Je savais que c'était mon cas. Le rebord rocheux s'inclinait en pente raide rendue glissante par la pluie. Le brouillard s'était encore refermé sur nous.
« Ce sera difficile de se voir les uns les autres dans cette soupe, » dit Lomo. « Continuez à tracer des cercles vers la gauche. Restez à 5 mètres de celui qui vous précède. Dans le même ordre que notre marche. Aînée et son aile jaune, après moi. Ensuite l'homme bleu et sa voile bleue, puis vous, Roll, en vert. Notre plus grand risque, c'est de nous perdre les uns les autres dans les nuages. »
Aînée hocha la tête et dit laconique,
« Je resterai près de votre aile. »
Lomo me regarda.
« Vous pourrez parler avec Aînée par les fils comme de vos combinaisons peau, mais cela ne vous aidera pas à vous retrouver. Abétique et moi communiquerons par des signaux à bras. Soyez prudents. Ne perdez pas de vue le coucou de l'homme bleu. Si cela vous arrivait, continuez à vous élever en traçant des cercles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous soyez au-dessus des nuages. Et alors, essayez de nous rejoindre. Faites des cercles courts tant que vous êtes dans les nuages. Si vous les élargissiez, ce qu'on a tendance à faire en deltaplane, vous heurteriez la paroi. »
Ma bouche était sèche, tandis que je hochais la tête.
« Bon, » dit Lomo, je vous reverrai tous au-dessus des nuages. Alors je chercherai les thermiques, j'interpréterai le courant ascendant de la paroi et vous conduirai au jet stream. Je vous ferai ce signal-là. »
Il serra le poing, leva et baissa 2 fois le bras.
« Quand il sera temps pour moi de vous laisser. Continuez alors à grimper en décrivant des cercles. Restez au cœur du jet stream. Élevez-vous avec les vents de l'atmosphère supérieure jusqu'à ce que vous pensiez qu'ils vont déchirer vos voiles. Ils le feront peut-être. Mais vous n'aurez aucune chance d'atteindre le Taishan à moins de rester au centre du jet stream. Il y a 111 clics jusqu'au premier épaulement du Grand Pic où vous pourrez enfin respirer de l'air. »
Nous hochâmes tous la tête.
« Puisse le Bouddha sourire à notre folie d'aujourd'hui !»
conclut Lomo. Il semblait très heureux.
« Amen !»
dit Aînée. Lomo se retourna sans ajouter un mot et sauta dans le vide. Aînée le suivit 1 seconde plus tard. Abétique se pencha en avant dans son harnais, s'écarta de l'escarpement d'un coup de pied et fut avalé par les nuages en 1 seconde. Je me précipitai pour le rattraper. Soudain, il n'y eut plus de pierre sous mes pieds et je me penchai en avant jusqu'à me retrouver couché sur le ventre, dans mon harnais. Déjà, j'avais perdu de vue l'aile bleue de Abétique. Les nuages tourbillonnants m'embrouillaient et me désorientaient. Je tirais sur la barre de commande pour faire virer le deltaplane, comme on me l'avait appris, en essayant de percer le brouillard pour apercevoir l'un des autres appareils. Rien. Tardivement, je m'aperçus que j'avais tourné pendant trop longtemps. Ou bien avais-je interrompu mon cercle trop tôt? J'amorçais un vol en palier, sentant les courants thermiques pousser le tissu au-dessus de moi, sans pouvoir dire si je gagnais vraiment de l'altitude, car j'étais aveugle. Le brouillard ressemblait à une terrible cécité des neiges. Sans réfléchir, je criais, espérant que l'un des autres me répondrait et m'orienterait. Un cri d'homme me revint aussitôt et mit à quelques mètres devant moi. C'était ma propre voix, se réverbérant sur la roche verticale de la paroi que j'étais sur le point de heurter. Némès, Scylla et Briarée vont vers le sud à pied en quittant l'enclave de la Pax au pied du phallus de Shiva. Le soleil est haut et il y a d'épais nuages à l'est. De l'enclave de la Pax à Potala, l'ancienne voie haute longeant la crête du Coco Nord a été élargie et une plateforme spéciale du câble installée à l'endroit où le fil métallique de 10 clics de long part pour le palais d'hiver. Un palanquin spécialement gréé pour les diplomates de la Pax est suspendu aux poulies de la nouvelle plateforme. Némès se fraye un chemin dans la queue et entre dans le palanquin, ignorant les regards des petites gens en épaisse tchouba qui grouillent sur l'escalier sur la plateforme. Quand ses clones sont dans la cage, elle relâche les deux freins et envoie le palanquin foncer dans le vide. Des nuages sombres s'élèvent au-dessus de la montagne du palais. Une escouade de 20 gardes du palais, portant des hallebardes et de rudimentaires lances à énergie, les accueille sur les marches de la grande terrasse, du côté ouest de la crête du chapeau jaune, là où le mur du palais descend le long du versant est sur plusieurs kilomètres à pic. Le capitaine de la garde est plein de déférence.
« Je vous prie de bien vouloir attendre ici jusqu'à ce que la garde d'honneur qui va vous escorter dans le palais arrive, très honorables invités, »
dit-il en s'inclinant.
« Nous préférons entrer seuls, » répond Némès.
Les 20 gardes se ramassent sur eux-mêmes, les lances pointées vers les arrivants. Ils forment un mur solide de fer, de fourrure de zichèvre, de soie et de casque ouvragé. Le capitaine de la garde s'incline encore plus bas.
« Je m'excuse de mon indignité, très honorables invités, mais il est impossible d'entrer dans le palais d'hiver sans une invitation et une garde d'honneur, qui vont arriver dans une minute. Si vous voulez bien attendre à l'ombre, sous le toit de la pagode, honorables invités, un personnage d'un rang plus élevé que moi et digne de vous accueillir va arriver dans un instant. »
Némès hoche la tête.
« Tuez-les, » dit-elle à Scylla et Briarée, et elle s'avance tandis que ses clones changent de phase.
Ils se défassent pendant la longue traversée des nombreux niveaux du palais, ne passant en temps rapide que pour tuer les gardes et les domestiques. Quand ils sortent par les grands escaliers et arrivent au Pargokaling, la grande porte ouest, de ce côté du pont Kishu, ils tombent sur le régent qui bloque le chemin avec 500 de ses meilleurs gardes du palais. Quelques-uns de ses combattants d'élite portent des épées et des piques, mais la plupart sont armés d'arbalètes, de carabines à gros calibre, de rudimentaires armes à énergie et de fusils à guide d'onde.
Commandant Némès, dit Tok'ra en baissant légèrement la tête, mais sans s'incliner pour ne pas perdre de vue la femme qui se tient devant lui. Nous avons appris ce que vous avez fait à Shivling. Vous ne pouvez pas aller plus loin.
Tok'ra fait un signe à quelqu'un posté plus haut, dans les yeux qui brillent sur la tour de Pargokaling, et le pont de chrome noir rentre silencieusement dans la montagne. Seuls les grands câbles de suspension demeurent, entourés de fils métalliques coupant comme des rasoirs, et oints d'un colloïde qui empêche toute adhérence. Némès sourit.
« Qu'allez-vous faire, Tok'ra ?»«
Sa sainteté est à Swan Kunso, » dit le régent au visage mince. « Je sais la raison de votre venue ici. Nous ne pouvons pas vous laisser faire du mal à sa sainteté, le Dalai Lama. »
Radamant Némès sourit plus largement, laissant découvrir toutes ses dents.
« De quoi parlez-vous, Tok'ra ? Vous avez vendu votre cher Dieu petit garçon au service secret de la Pax pour 30 pièces d'argent. Sommes-nous en train de marchander pour un supplément de vos stupides pièces à 6 pointes ?»
Le régent secoue la tête.
« L'accord passé avec la Pax portait que sa sainteté ne courait aucun danger. »
Mais vous, nous voulons la tête de la fille, pas celle de votre lama petit garçon. Ôtez vos hommes de notre chemin ou vous les perdrez. »
Tok'ra se retourne et aboie un ordre à ses nombreuses rangées de soldats. Les visages des hommes sont graves tandis qu'ils mettent leur arme à l'épaule. La masse qu'ils forment obstrue la voie menant au pont, bien que celui-ci ne soit plus là. Des nuages sombres bouillonnent dans l'abîme.
« Tuez-les tous, » ordonna Némès en se déphasant.
L'Homo nous avait tous entraînés théoriquement aux commandes d'un deltaplane, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en piloter un. Maintenant que l'escarpement surgissait du brouillard devant moi, je devais faire immédiatement la bonne manœuvre ou je mourrais. On gouvernait l'appareil en manipulant la barre de commande suspendue devant soi. Pendouillant dans mon harnais, je me penchais aussi loin que je le pus sur la gauche, en y faisant porter tout mon poids, autant que le gréement le permettrait. La paravoile vira, mais pas beaucoup, je m'en aperçus aussitôt. L'appareil allait intercepter la paroi rocheuse à 1 ou 2 mètres de l'apogée de son arc. Il y avait une autre série de commandes. Des poignées qui vidaient l'air de la surface dorsale sur chacun des bords d'attaque de l'aile, mais cette manœuvre était compliquée, dangereuse et réservée aux situations critiques. Je voyais distinctement le lichen sur la paroi rocheuse qui se rapprochait. C'était une situation critique. Je tirai de toutes mes forces sur la poignée de secours gauche, le nylon s'ouvrit sur ce côté de la paravoile, telle la fente d'une bourse. L'aile droite, captant le courant ascendant qui, ici, était fort, vira violemment vers le haut, le deltaplane faillit se retourner à cause de son aile gauche inutile en train de se vider de son air, réduite à sa structure d'aluminium plate. Mes jambes furent projetées sur le côté, tandis que l'appareil menaçait de caler et de dégringoler dans les rochers. Mes bottes raclèrent la pierre et le lichen, et tandis que l'aile tombait presque tout droit, je relâchai la poignée gauche, le tissu à mémoire active de la surface directrice se sutura tout seul en un instant, et je volai de nouveau, mais en chute presque verticale. Les forts courants thermiques qui s'élevaient le long de la paroi happèrent l'appareil comme un ascenseur en train de monter et je fus projeté vers le haut. La barre de commande me frappa la poitrine assez durement pour me faire expulser tout l'air que j'avais dans les poumons et le deltaplane piqua, grimpa et tenta de décrire une boucle lâche d'un rayon de 60 ou 70 mètres. Je me retrouvais suspendu presque la tête en bas et de nouveau face à la paroi rocheuse, mais cette fois avec l'appareil et les contrôles en dessous de moi. Les choses allaient mal. J'allais boucler mon cercle sur le versant de la montagne. Je tirais d'un coup sec sur la poignée de secours droite, vidais l'air, dégringolais obliquement en une chute vertigineuse, scellais l'aile et tirais les poignées et la barre de commande, tout en déplaçant violemment mon poids afin de rétablir l'équilibre. Les nuages s'étaient écartés suffisamment pour que je voie l'escarpement à 20 mètres sur ma droite, tandis que je me débattais avec les courants thermiques et l'appareil pour monter en ligne droite. Je me retrouvais en palier et pilotais le cerf-volant, repartant en spirale vers la gauche, mais soigneusement cette fois, avec infiniment de soin, bien content que la brèche dans les nuages me permette d'évaluer ma distance de l'escarpement, et je me penchais à gauche sur la barre de commande. Soudain, on chuchota à mon oreille. « Ouh là là, c'était amusant à voir. Tu pourrais recommencer ?» Je sursautais, puis regardais en l'air. Le triangle jaune vif de la paravoile des nez tournait au-dessus de moi, se détachant sur le plafond gris des nuages. « Non merci !» dis-je, laissant les fils comme de la gorge de ma combinaison peau capter ma sous-vocalisation. « Je pense que je me suis suffisamment donné en spectacle. » Je levai de nouveau les yeux vers elle. « Pourquoi es-tu là ? Où est Abétik ? On s'est rencontrés au-dessus des nuages, on ne t'a pas vu et je suis redescendu te chercher, » dit simplement Aîné. Sa voix, transmise par les filcoms, semblait douce à mon oreille. Je fus pris de nausée, plus à l'idée qu'elle risquait tout en faisant cela, qu'au souvenir de mes violentes acrobaties.
« Je vais bien, »
rétorquai-je d'un ton bourru. « Fallait juste que je sente le courant ascendant de l'arête.
Ouais. Il est traître. Pourquoi ne pas me suivre ?
Je le fis, ne laissant pas mon orgueil entrer en concurrence avec ma survie. C'était difficile de ne pas perdre son aile jaune de vue dans le brouillard changeant, mais plus facile que de voler en aveugle près de l'escarpement. Elle semblait sentir exactement où était la paroi rocheuse, faisant passer nos cercles à 5 mètres de celle-ci afin d'y attraper le centre fort des thermiques, ne venant jamais trop près sans jamais s'en éloigner outre mesure. En quelques minutes, nous sortîmes des nuages. J'avoue que cette expérience me coupa le souffle. D'abord l'air s'éclaircit lentement, puis la lumière du soleil jaillit tandis que je m'élevais au-dessus de la couche nuageuse comme un nageur émergeant d'une mer blanche, grimaçant dans la lumière éclatante, plongé dans la liberté aveuglante du ciel bleu et d'une vue de tous côtés apparemment infinie. Seuls les pics et les lignes de crête les plus élevées dépassaient de l'océan de nuages. Le Taishan, d'un blanc scintillant, si loin à l'est, le Hengshan, presque équidistant au nord, notre chaîne de Jokung s'élevant comme la lame d'un rasoir au-dessus de la marée nuageuse, courait vers l'ouest, la crête du Kunlun, muraille lointaine, se déployait du nord-ouest au sud-est, et là-bas, loin au nord du monde, surgissaient les brillants sommets de Chomolori, le mont Parnasse, le Kanchenjunga, le mont Koya, le mont Kalai, et d'autres que je ne pouvais identifier sous cet angle. Abétik décrivait des cercles non loin de moi et me fit signe que tout allait bien. Je pointais aussi le pouce vers le ciel et levais les yeux pour voir l'homo faire des signaux à bras à 50 mètres au-dessus de nous. Montez, continuez à décrire des cercles courts, suivez-moi. C'est ce que nous fîmes, aîné grimpant aisément pour reprendre son poste derrière l'homo, l'aile bleue d'Abétik traçant des cercles qui croisaient ce qu'elle avait fait en montant, et moi, formant l'arrière-garde, 15 mètres plus bas, à 50 mètres de l'androïde. L'homo semblait savoir exactement où se trouvaient les courants thermiques. Parfois nous tournions plus à l'ouest, attrapions l'ascendant et élargissions nos cercles pour retourner à l'est. Parfois nous avions l'air de décrire des cercles sans monter. Mais alors je regardais le Hengshan, au nord, et m'apercevais que nous avions gagné plusieurs centaines de mètres d'altitude. Lentement, nous montions et lentement nous progressions vers l'est, bien que le Taishan fût encore à 80 ou 90 clics. Il faisait plus froid et respirer devenait plus difficile. Je scellais la dernière parcelle de mon masque à osmose et inhalais de l'eau de pure tandis que nous grimpions. La combinaison peau se resserra sur moi, agissant comme un scaphandre pressurisé et un costume chauffant. Je vis que l'homo frissonnait dans sa tchouba en zichèvre et ses lourdes mitaines. Il y avait de la glace sur l'avant-bras nu d'Abétik, et nous décrivions toujours des cercles ascensionnels. Le ciel fonça, la vue devint plus incroyable. Le lointain Nanda Devi au sud-ouest, l'aile Gafel encore plus loin au sud-est, et le pic de Harney derrière le Shivling apparurent au-dessus de la courbure de la planète. Pour finir, l'homo en eut assez. Un moment plus tôt, j'avais décelé le clair masque à osmose de mon capuchon pour voir comment était l'air, tenté d'inhaler ce qui ressemblait au vide absolu et recelé rapidement la membrane. Je ne comprenais pas comment l'homo faisait pour respirer, penser et fonctionner à cette altitude. Il nous fit signe de continuer à décrire des cercles plus élevés sur le courant thermique qu'il avait trouvé, nous adressa l'ancien geste signifiant « bonne chance », l'extrémité du pouce et celle de l'index jointe pour former un cercle, puis vida l'air ténu de son deltaplane pour se laisser tomber comme un faucon en piqué. En quelques secondes, l'aile rouge était à un millier de mètres en dessous de nous et fonçait vers la ligne de crête à l'ouest. Nous continuâmes à décrire des cercles et à monter, perdant parfois le courant ascendant, puis le retrouvant de nouveau. Nous étions poussés vers l'est par les bords inférieurs du jet stream, alors nous suivîmes le dernier conseil de l'homo et résistâmes à la tentation de nous tourner vers notre destination. Nous n'avions pas encore assez d'altitude ou de vent arrière pour accomplir le trajet de 80 km. Rencontrer le jet stream, ce fut comme entrer, brusquement, en kayak, dans des rapides écumants. L'appareil d'aîné franchit le bord la première, je vis le tissu jaune vibrer comme s'il était pris dans une forte bourrasque et la superstructure en aluminium se cabra violemment. Puis Abétik et moi, nous y entrâmes. Alors nous ne pûmes que nous maintenir à l'horizontale, face à la barre de commande, dans le harnais qui se balançait, tout en continuant à décrire des cercles ascendants.
« C'est dur !» dit la voix d'aîné dans mon oreille. « L'appareil veut s'en arracher et aller vers l'est !» « Il ne faut pas »
haletais-je, ramenant le deltaplane dans le vent de front. Je fus projeté plus haut par un grand courant ascensionnel vertical.
« Je sais !»
répliqua la voix tendue d'aîné. J'étais à 100 mètres en dessous d'elle, mais je la vis se débattre avec la barre de commande, les jambes droites, ses petits pieds pointés vers l'arrière comme ceux d'un plongeur. Je regardais autour de moi. Le soleil brillant était entouré d'un halo de cristaux de glace. Les lignes de crête étaient presque invisibles, les sommets des pics les plus hauts à des clics en dessous de nous.
Comment Abétik s'en tire-t-il ?
Demanda Aîné. Je me tortillais et m'efforçais de le voir. L'androïde décrivait un cercle au-dessus de moi. Ses yeux semblaient fermés, mais je le voyais manipuler sa barre de commande. Sa peau bleue luisait de givre.
Bien, je pense.
Aîné ?
Oui ?
La Pax pourrait-elle, à Shivling ou en orbite, capter nos transmissions par les Filcom ?
Non !
Halta Aîné. Même avec les masques à osmose et la matrice de respirateurs tissés dans les combinaisons peau, l'air était ténu et froid.
Les Filcom ont une portée très courte. Un demi-clic au pire.
Alors restons proches l'un de l'autre.
Je tentais de gagner quelques centaines de mètres avant que l'ouragan presque silencieux qui me ballottait n'expédie vers l'est le cerf-volant hurlant. Quelques minutes s'écoulèrent. Nous ne pouvions plus résister au puissant courant de ce fleuve d'air. Le thermique ne faiblit pas, il mourut, et nous nous retrouvâmes à la merci du jet stream.
« Allons-y !»
cria Aîné, oubliant que son plus léger murmure était audible dans mon écouteur. Je vis Abétik ouvrir les yeux et me signaler d'un geste que tout allait bien. Au même instant, mon deltaplane s'arracha au courant thermique et fut entraîné vers l'est. Même avec l'atténuation des sons, nous avions l'impression de traverser l'air en rugissant à une vitesse si incroyable qu'elle en devenait audible. L'aile jaune d'Aîné partit comme la flèche d'une arbalète. La bleue d'Abétik la suivit. Je me bagarrais avec les commandes, compris que je n'avais pas la force de modifier ma course d'un seul degré et me contentais de tenir bon tandis que nous filions vers l'est et vers le bas dans le fleuve d'air qui nous pilonnait. Le Taishan scintillait devant nous, mais nous perdions rapidement de l'altitude et le versant de la montagne était encore très loin. À des kilomètres en dessous de nous, dissimulés par la mer de nuages blancs de la mousson, les nuées verdâtres de phosgène de l'océan planétaire acide bouillonnaient, invisibles, et nous attendaient.